Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, une affaire dont on ne connaît pas encore la fin, mais qui, par son impact médiatique, judiciaire et politique, a déjà marqué profondément le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'affaire Alexandre Benalla. Lors de son procès en correctionnel, qui s'est terminé vendredi dernier, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron et chargé de mission de l'Élysée devait répondre de plusieurs délits, dont possession illégale d'armes et passeports diplomatiques, ainsi que coups et blessures sur des manifestants en 2018. Le ministère public a requis 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une amende de 500 euros et d'une interdiction de port d'armes de 10 ans. On connaîtra le jugement le 5 novembre. Des réquisitions qui semblent donner raison à tous ceux qui se posaient la question suivante. En vérité, s'agit-il d'une affaire d'État ou d'une affaire d'un été? Nous le verrons avec notre invité aujourd'hui, Samuel Laurent, journaliste au journal Le Monde. Il a suivi tout le procès d'Alexandre Benalla au tribunal de Paris. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne et Marion Lelay.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
1er mai 2018, il est 20h17, Tahar Ouafs, un jeune militant de la France Insoumise, publie sur son compte Twitter ce message.
Alerte, violence policière. Des policiers tabassent et gazent tout le monde place contre-escarpe. Faites tourner, il faut que tout le monde voie.
Oui, ce tweet est accompagné d'une vidéo réalisée à l'aide de son téléphone portable. Elle dure 2 minutes et 14 secondes, cette vidéo. Et elle montre la place de la contre-escarpe, 5e arrondissement de Paris, investie par les CRS. Des dizaines de militants s'y étaient donné rendez-vous pour un apéro en fin de manif. Le pique-nique n'a duré que quelques minutes. Sur les images publiées par Tahar Ouafs, on voit les terrasses des cafés vides, le sol jonché de débris ainsi que des CRS repousser les dernières poches de manifestants. Tahar est placé sur le trottoir, en retrait. Il ne sait où fixer son objectif. Des témoins crient, hurlent. Une première femme interpellée passe devant lui. Il la suit du regard, puis braque son téléphone à gauche de la place où un jeune homme au sol est interpellé violemment par les forces de l'ordre. De force, un homme chauve, sans uniforme, traîne l'individu au sol. Qu'a-t-il fait? Aucune idée. La vidéo n'illustre que la violence du moment. À 1 minute 12 de la bande, un autre homme, casque à visière sur la tête, entre dans le champ. Il attrape violemment l'individu par le cou, puis le frappe à plusieurs reprises et les CRS laissent faire.
Il nous casse parce qu'ils veulent pas d'image, ils veulent pas d'image. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Il l'a tabassé par terre.
L'inconnu casqué disparaît. Était-ce un policier en civil? Pourquoi accompagnait-il les CRS lors de cette opération à la contre-escarpe? Que sont devenus la jeune femme et le jeune homme interpellés? Personne ne le sait. Au lendemain de la journée de manifestation, la vidéo du militant de la France Insoumise est partagée, commentée, vue. Mais le buzz reste cloisonné au cercle des militants et aux associations de lutte contre les violences policières. La dispersion de la place de la contre-escarpe n'est qu'un événement parmi d'autres au cours de cette journée sous haute tension. Par exemple, près du pont d'Austerlitz, les échauffourées, tout comme les dégâts, ont été bien plus importants. Les images de ces violences d'une partie des manifestants, notamment celle du saccage d'un McDo, dominent alors l'espace médiatique et politique. Le tweet, comme la vidéo de Tahar Ouafs, disparaissent, eux, dans le flux web jusqu'au 18 juillet. Ce jour-là, à 20h09, Le Monde publie en une sur son site internet un article d'Ariane Chemin qui a pour titre
« Le Monde identifie, sur une vidéo, un collaborateur de Macron frappant un manifestant le 1er mai à Paris. »
Son nom, Alexandre Benalla. Sa fonction, chargé de mission à l'Élysée. Aïe. Avant cet article, pour le grand public comme pour une partie de la presse, Alexandre Benalla n'était un parfait inconnu. C'est l'une des règles étranges de notre République qui permet aux chargés de mission de la présidence de ne pas avoir leur nom publié au journal officiel. L'organigramme de l'Élysée est ainsi rempli de fantômes. Mais pourquoi ce chargé de mission était-il présent ce 1er mai, place de la Contrescarpe ? Patrice Trotta, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, explique à la journaliste du Monde qu'il était là en tant qu'observateur. Statut qui, au vu des images, a été largement outrepassé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Élysée, comme la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur, ont été informés des méfaits d'Alexandre Benalla dès le 2 mai. Ce jour-là, à chaque étage, c'est l'orage. Chacun se renvoie la balle. Par chance, le président est à l'étranger. Une sanction est proposée. À distance, Emmanuel Macron valide. Alexandre Benalla est ainsi suspendu 15 jours. À la préfecture de police, par précaution, on fait graver sur CD-ROM des images de caméras surveillance de la place de la Contrescarpe, on ne sait jamais. Le 22 mai 2018, comme prévu, après sa courte suspension, le chargé de mission Benalla retrouve sa place et son rang auprès des hommes du président. Sur les clichés de presse, on le voit au Panthéon, au défilé du 14 juillet, ou bien encore avec les Bleus lors de leur retour victorieux de la Coupe du Monde de football. Bref, tout va bien pour lui. Un an plus tôt, le soir du second tour de la présidentielle, c'est lui qui ouvre dans l'ombre la marche victorieuse d'Emmanuel Macron au Louvre. Et naturellement, il suit le président à l'Élysée. Au château, on lui a réservé un poste sur mesure. Benalla devient chargé de mission, responsable de l'organisation des déplacements nationaux du président et de l'organisation des événements au palais, ainsi que de la coordination des deux services de sécurité de l'Élysée. À 26 ans, il est l'un des deux adjoints du chef de cabinet de la présidence. En juin 2018, après sa suspension forcée, il devient père de famille pour la première fois. Le 21 juillet, il doit se marier. Sauf que, 4 jours plus tôt, Le Monde publie son article. Ce 18 juillet au soir, la préfecture, le ministère, comme l'Élysée, se mettent en alerte. Alexandre Benalla, lui, passe la soirée au Damas Café, un bar à chicha, situé à 3 pâtés de maison d'Élysée. Selon les fadettes analysées par les enquêteurs, son téléphone n'a pas arrêté de sonner. 33 correspondants différents l'ont joint ce soir-là. Des personnalités médiatiques, tels Arnaud Klarsfeld ou Yacine Bellatar, des grands noms du monde de la sécurité, comme Jean-Michel Fauvergue, Christian Proutot également, tout comme Ismaël Emelien, conseiller spécial du président. Les deux hommes échangent jusqu'à 2h26 du matin. Au Damas Café, Alexandre Benalla ne passe pas la soirée seul. Vous vous souvenez de l'homme au crâne chauve de la vidéo du 1er mai ? Eh bien, il s'agit de Vincent Crase. Gendarme réserviste, salarié du parti du président, c'est le second visage de l'affaire. Comment s'est-il retrouvé aux côtés des forces de l'ordre le 1er mai ? Eh bien, à l'invitation de son copain, chargé de mission, Benalla, qui lui a été invité par Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police. Vous suivez ? Bien. En tout cas, ce 10 juillet, juste après la sortie de l'article du Monde, Benalla et Simonin communiquent. Dans la lutte antiterroriste, on dirait que la cellule se réveille. Élysée, préfecture, Damas Café, ça clignote de partout. L'un des sujets de discussion concerne un CD-ROM qui contient des images de vidéosurveillance des événements de la Contrescarpe, extraites des bases de la préfecture. En fin de soirée, au bar de Chicha, un employé de la préfecture dépose à Alexandre Benalla une copie des images de surveillance. Incroyable mais vrai. Ils ne le savent pas encore, mais ce CD-ROM va causer bien des problèmes à tous ceux qui l'ont eu entre les mains. Le lendemain, le 19 juillet, la machine judiciaire, politique et médiatique s'emballe.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un conseiller d'Emmanuel Macron impliqué dans des violences lors du 1er mai dernier. L'homme s'occupait de la sécurité du président depuis la campagne présidentielle. Une vidéo le montre frappant un manifestant. Un comportement qui ne lui a valu que 2 semaines de suspension. L'opposition demande à la justice de se saisir. Malaise dans les couloirs de l'Élysée.
Le parquet de Paris est le premier à frapper. Suite aux informations publiées par Le Monde, il annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les chefs de violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. L'Élysée emboîte le pas. Peu avant 11h, Bruno Roger-Petit, le porte-parole de la présidence, déclare.
Alexandre Benalla, qui est chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence de la République, a demandé l'autorisation d'observer les opérations de maintien de l'ordre prévues pour le 1er mai. Cette autorisation lui a été donnée, puisqu'il agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé et qu'il ne devait avoir qu'un rôle d'observateur. Il a largement outrepassé cette autorisation. Il a été mis à pied pendant 15 jours, avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave.
Chaque mot, chaque intonation est mûrement réfléchi. Les journalistes repèrent les premiers éléments de langage que la majorité dispensera toute la journée dans les médias. L'autorisation de la préfecture, un statut d'observateur, une sanction avec retenue sur salaire et la fin de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Une partie de ces informations seront démenties. Qu'importe. En situation de crise, la communication se limite parfois à l'intoxication. La vérité est celle du moment, celle que l'on répète, celle qu'on martèle, propage par tous les canaux. À ce petit jeu de poker menteur, l'Élysée a son champion, Ismaël Emilien. Ce 19 juillet, à côté de la communication officielle, une riposte officieuse est lancée. À la tête de cette opération, ce conseiller spécial du président. Ce jour-là, peu avant 9h, Emilien retrouve dans son bureau de l'Élysée Alexandre Benalla, qui, lors de cette rencontre, lui transmet le CD-ROM avec les images de vidéosurveillance. En fin de matinée, Ismaël Emilien les transmet à un salarié de La République En Marche, en charge du pôle e-influence, un certain Pierre Le Texier. Que lui demande le conseiller du président ? De publier un tweet et une vidéo qui prouvent que la personne malmenée par Alexandre Benalla était coupable de violence à l'encontre des forces de l'ordre. À 13h59, le compte Twitter @FrenchPolitik, dont le salarié de La République En Marche est l'administrateur, publie ce message.
Ok, même si ce n'était pas à Alexandre Benalla de le faire, ne faisons pas passer cet étudiant pour un garçon bien sous tout rapport. C'était un individu violent qui était venu sciemment en place de la contrescarpe pour casser du flic.
Comme convenu, le tweet est accompagné d'une vidéo avec des images extraites des enregistrements de la préfecture. Est-ce légal ? Évidemment non. Pire, l'une des scènes montées ne se déroule pas à la contrescarpe et n'illustre en aucun cas des méfaits du jeune homme interpellé. Quelques heures plus tard, le tweet comme la vidéo seront supprimés. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, la pression monte. Un an après la victoire, sans partage de la nouvelle majorité, les députés de l'opposition retrouvent du souffle.
Un personnage central dans l'équipe de l'Élysée se rend dans une manifestation. Pourquoi ? Est-ce qu'il y vient pour assouvir un besoin sadique personnel dans les...
C'est maintenant au président de la République
de venir s'exprimer devant les Français et de dire quelle conception il a.
Quand on est à l'Élysée, on doit montrer un sens. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Élysée, on se croit au-dessus de tout.
Le président doit faire la lumière et dans les plus brefs délais.
Certains parlementaires somment le chef de l'État de s'exprimer.
Tous les membres du gouvernement montent au front, mais les approximations de certains d'entre eux nourrissent la fronde. Une commission d'enquête est demandée, puis acceptée. Et les unes après les autres, les digues sautent.
Si demain, quelqu'un de proche du prince peut se mettre un brassard pour aller taper sur des manifestants qui s'opposent au projet de la majorité, mais on n'est plus en République.
À la préfecture de police de Paris s'attendent aussi. Les responsables qui ont permis les événements du 1er mai, comme la diffusion des images de surveillance, sont suspendus. Le lendemain, le 20 juillet, Alexandre Benalla est lâché par le château. À l'aube, l'Élysée annonce en effet à la presse une procédure de licenciement à l'encontre du chargé de mission. Le même jour, Benalla est convoqué à 10h à la police judiciaire. Arrivé en retard, il gare sa voiture de fonction munie d'un équipement de police sur le trottoir. Espère-t-il échapper à la garde à vue ? Sûrement. Son mariage est prévu le lendemain, et pour l'heure, aucune disposition n'a été prise pour l'annuler. À 11h, l'interrogatoire commence. Benalla tente de mener la danse. Il refuse de répondre à certaines questions, mais palabre sans crainte, en revanche, sur les armes stockées chez lui dans un coffre. Comment explique-t-il ses agissements du 1er mai ? Le devoir, bien sûr. Le conseiller, bien préparé, évoque les articles 53 et 73 du code de procédure code pénal qui autorise tout citoyen à interpeller l'auteur d'un crime ou d'un délit. Vers 20h, on emmène le chargé de mission chez lui à Issy-les-Moulineaux pour une perquisition. Problème, Alexandre Benalla n'a pas les clés d'appartement. Sa future femme est absente. Étonnamment, on ne trouve ni serrurier ni bélier pour fracturer la porte. C'est ballot, mais surtout, c'est grave. La perquisition est repoussée au lendemain. La seconde tentative sera la bonne, mais les enquêteurs ne saisissent rien d'intéressant. Pire, le coffre a disparu. En fin de journée, le samedi 21 juillet, la garde à vue se termine. Benalla est libre. Ce soir-là, il aurait dû être marié. Il est finalement mis en examen pour recel de violation du secret professionnel et recel de détournement d'image issu d'un système de vidéoprotection. Vincent Crase, le copain, salarié de La République En Marche, l'est aussi. Le lendemain, l'Élysée fait savoir qu'une réunion de crise s'est tenue avec le président. Emmanuel Macron a tenu à condamner ces faits jugés inacceptables. Voilà. L'incendie est-il maîtrisé? Au château, on l'espère. Mais pourtant, jour après jour, l'émoi ne redescend pas. Lundi 23 juillet, 8h20 sur France Inter, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, tente de calmer les choses.
François de Rugy, y a-t-il des barbouzes à l'Élysée ou à La République En Marche?
Non, en tout cas, rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est que maintenant, que la tension est un peu retombée, en tout cas il faut qu'elle retombe pour que l'on puisse établir les faits dans la plus grande sérénité. Et ça, c'est le fonctionnement régulier de nos institutions. Et la commission d'enquête parlementaire, c'est aussi le bon fonctionnement de nos institutions. Et cela permettra d'établir la réalité des faits.
Connaissance, monsieur le ministre d'État, les fonctions exercées.
À l'Assemblée, les auditions de la commission parlementaire se succèdent. Ministres, préfets, membres du cabinet répondent aux questions des députés. Tout est filmé, diffusé en direct et commenté en simultané par les journalistes et les spectateurs sur les réseaux sociaux. Le ton des échanges évolue selon la sensibilité des députés. Les En Marche sont courtois, parfois naïfs et peu curieux. Ceux d'opposition sont rigoureux, pointilleux, corrosifs. Même si le débat semble souvent cadenassé, la journée permet quand même d'éclaircir certains points. Le préfet de police, Michel Delpeuche, reconnaît par exemple qu'il a satisfait en octobre 2017 la demande de port d'armes d'Alexandre Benalla dans le cadre de ses fonctions liées à la sécurité. Dans l'hémicycle, l'affaire est à gauche en plan tous les autres sujets, notamment la réforme constitutionnelle désormais suspendue. Le gouvernement connaît sa première vraie crise. Alors, à plusieurs reprises, le Premier ministre, Édouard Philippe, monte au front.
Les Français se posent une seule question. Pourquoi M. Benalla est à ce point protégé et privilégié par M. Emmanuel Macron?
Je veux vous dire, là encore, les choses très clairement. Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Les copinages malsains qui ont été hier en commission d'enquête évoqués par le préfet de police ne font pas une affaire d'État. Vous voulez la vérité, vous voulez la lumière, l'ensemble des procédures qui ont été engagées nous permettront de connaître précisément l'enchaînement des faits et, le cas échéant, les responsabilités individuelles. L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal. Les députés ne sont ni procureurs ni juges.
Alexandre Benalla. Quelques heures plus tard, ce 24 juillet, après 6 jours de silence, Emmanuel Macron prend la parole. À la télé, lors d'un déplacement, non. Dans les jardins de la Maison de l'Amérique latine, à Paris, à l'occasion d'un rassemblement avec les députés de la majorité. La plupart des ministres l'accompagnent. Aucun journaliste n'a été invité. Mais par coïncidence, ou sur demande, les objectifs des téléphones portables immortalisent le moment et diffusent des bribes du discours sur les réseaux sociaux.
Jamais dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduit là, ça n'est pas la République des fusibles. Ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain.
Qu'il vienne me chercher, la formule marquera les esprits. Comme c'est à l'encontre de la presse qui, selon le président, ne chercherait plus la vérité. Les députés et les ministres présents applaudissent. Emmanuel Macron en est certain, l'affaire va faire pchit. Dans les jours qui suivent, effectivement, la tension redescend. À l'Assemblée, le co-rapporteur de la commission, le député des Républicains Guillaume Larrivé, claque la porte de la commission d'enquête, devenue, selon lui, une parodie. Le 26 juillet, lors d'un dernier déplacement avant la trêve estivale, le président s'amuse des derniers rebondissements de l'affaire.
Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée.
Mais les enquêteurs poursuivent. Fin juillet, il fouille la voiture de fonction d'Alexandre Benalla. Rappelez-vous, le jour de sa convocation, il avait garé sa voiture sur le trottoir, qui s'est évidemment retrouvé à la fourrière. À l'intérieur, les policiers découvrent trois cartes tricolores d'accès à l'Élysée, dont une est au nom de Benalla, l'autre d'Ismaël Emilien, la dernière au nom de Paul Soler, chargé de mission de l'état-major particulier du président. À l'Élysée, on l'appelle Monsieur Paul. Sa fonction, conseiller le président donc, sur les questions diplomatiques les plus sensibles. Alors, quel est son lien avec Benalla? Ont-ils des amis communs? Des affaires communes? Bientôt, la place de la contre-escarpe ne sera qu'un décor parmi d'autres. Il y aura aussi Londres, Marrakech, Djamena qui suivront.
T'as vu les infos? C'est pas vrai, c'est dingue, j'y crois pas.
J'y crois pas.
Arrête, non, tu déconnes.
J'y crois pas.
C'est pas possible, tu rigoles?
Putain.
Je vois pas qui c'est.
C'est pas possible.
Tu me l'apprends, mais je suis pas surpris. J'en étais sûr, j'y crois pas.
J'y crois pas.
C'est horrible, hein? Attends, y a encore plus drôle. Comme quoi, y a pas de fumée sans feu. Les chiens ne font pas des chats. Il manquerait plus qu'ils s'en sortent. Au village, c'est la stupéfaction.
J'y crois pas.
Il n'aurait jamais dû revenir. On voudrait juste comprendre. Je t'ai pas reconnu. Maintenant, il doit payer. On n'a rien vu venir. À l'école. Moi, je me suis toujours méfié. Y a pas assez de contrôle.
C'est tout ce monde dehors.
J'y crois pas. C'est pas la première fois dans la famille.
Tu rigoles.
Les camarades quartier s'abîment.
Les juges bouffent à tous les râteliers.
Je suis pas malheureux.
T'es comme les autres. Maintenant, elle doit payer.
Il était comme les autres.
On n'a rien vu venir.
On n'a rien vu venir.
C'est pas vrai. Tu crois pas.
On n'a rien vu venir. À bout. C'est bien le système français. C'est de naissance, on peut rien y faire.
Je
suis avant, mon père est flic.
Comme le cousin, ma mère.
L'autre,
avec sa tête de fou.
Après, il y a eu un grand silence.
Bonjour, monsieur Benalla. Est-ce que vous êtes stressé?
Est-ce que vous êtes sentiment alors que vous avez un peu de pouvoir, monsieur Benalla?
Messieurs les photographes, il y a une petite chance maintenant que vous ayez au moins une bonne photographie. Et je vous demande donc de bien vouloir vous retirer de la salle de nos auditions.
Le 19 septembre 2018, Alexandre Benalla est entendu par la commission parlementaire du Sénat. Il y a bien longtemps que la seconde assemblée du pays n'a pas connu aussi forte affluence. Duplex, direct, débat, tout le monde attend le grand oral de l'homme par qui la Macronie et l'Élysée ont été mises en difficulté durant l'été. Devant les sénateurs, Alexandre Benalla est courtois, poli, malin. Venu seul, sans avocat, il n'écarte presque aucune question des sénateurs. Il revient sur les événements du 1er mai, sur son rôle au sein de l'Élysée, et sur ses droits aussi, dont celui de porter une arme.
J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République ou pendant la campagne présidentielle, vous êtes exposé vous-même. On passe dans les médias, vous êtes identifié, quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans, il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Je crois savoir qu'un nombre important de personnes ayant travaillé à l'Élysée se sont déjà vues délivrer des autorisations de port d'armes. Je pense par exemple, je vais citer son nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais M. Michel Charras, lorsqu'il était collaborateur de François Mitterrand, il disposait d'une autorisation de port d'armes. Est-ce que M. Michel Charras était le garde du corps de François Mitterrand? Je ne le crois pas. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites...
Dit-il vrai? Dans cette affaire, les vérités ont des durées de vie limitées. Quelques jours plus tard, en effet, le 24 septembre, le journal Mediapart publie un selfie du directeur de la sécurité du candidat durant la campagne présidentielle avec une arme, un Glock pour être précis. Grave, l'affaire l'est assez pour que les juges élargissent l'enquête à ce selfie. Mais c'est une autre réponse d'Alexandre Benalla au sénateur qui va bientôt donner une autre dimension à l'affaire. À la question de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio sur le rendu de ses passeports diplomatiques, l'ex-chargé de mission de la présidence avait répondu le 19 septembre 2018 ceci.
En quoi vos fonctions justifiaient-elles de bénéficier de deux passeports diplomatiques? Vraisemblablement, c'est ce que nous avons eu connaissance de cette information. En particulier, pourquoi l'un de ces passeports vous a-t-il été délivré le 24 mai 2018, soit vraisemblablement, effectivement, après la sanction qui vous a été infligée et qui vous retirait toute participation au déplacement du président de la République? Et je voudrais savoir si, à ce jour, vous avez restitué ces deux passeports diplomatiques.
Alors, pour répondre à la première question sur les, ce que vous appelez les avantages, mais qui sont en fait juste des usages à la présidence de la République, la délivrance de passeport diplomatique est automatique. La délivrance, pardon, de passeport diplomatique, oui, est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Et donc, ce sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés pour une durée d'un an de mémoire et qui sont renouvelés de manière automatique par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu'ils arrivent à échéance. Et ce qu'ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper.
Sauf que le 24 décembre 2018, alors qu'Ariane Chemin prépare pour son journal la couverture du voyage présidentiel d'Emmanuel Macron au Tchad, la journaliste apprend, via la lettre du continent, que quelques semaines plus tôt, Alexandre Benalla est venu à N'Djamena, accompagné d'une demi-douzaine de personnes en avion privé. L'ancien chargé de mission se dit désormais consultant privé. Mais qui a-t-il rencontré durant ces jours? Eh bien le président Idriss Déby en personne, ainsi que son frère, Oumar Déby, qui pilote la direction générale de la réserve stratégique tchadienne. Où a-t-il dormi? À l'hôtel Hilton. La note a été réglée par l'homme d'affaires franco-israélien, spécialiste de la diplomatie privée, Philippe Ababou-Solomon, qui expliquera plus tard avoir rencontré Alexandre Benalla en octobre 2018. Il le dit notamment en juin 2019 aux journalistes Romain Boutilly et Tristan Valex pour Envoyé spécial sur France 2.
Il n'avait pas d'expérience dans l'international. Il n'a pas d'expérience dans les affaires. Donc la seule utilité qu'il pouvait avoir, c'était le lien revendiqué avec l'Élysée. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a l'écoute du président de la République, et il avait l'écoute du président de la République, si ce n'est directement, du moins avec tout l'entourage. C'est-à-dire avec les conseillers du président, enfin, il a travaillé à l'Élysée, donc c'était ses collègues de travail.
Grâce à son nouvel ami et collaborateur Benalla, Ababou Solomon rencontre notamment Paul Soler, vous savez, Monsieur Paul, chargé de mission auprès du président. En novembre 2018, c'est Ludovic Chacœur, chef d'état-major particulier du chef de l'État, qui entre en contact avec M. Ababou Solomon. De quoi parle-t-il? Mystère. Dès le voyage d'Alexandre Benalla au Tchad, connu de tous, quelques jours avant une visite officielle d'Emmanuel Macron, l'Élysée s'empresse de préciser que Benalla n'était en aucun cas un intermédiaire officieux ou officiel. Mais ce n'est pas tout. Le Tchad n'est qu'un pays visité parmi d'autres. Cameroun, Israël, Turquie, Maroc, mais aussi Londres. Alexandre Benalla y passe plusieurs séjours où il profite de l'un des appartements de son ami Philippe Ababou Solomon. Durant ses escapades près de la Tamise, l'ex-chargé de mission de l'Élysée côtoie notamment Germain Djoury, fils d'Alexandre Djoury, intermédiaire sulfureux et médiatique du quinquennat Sarkozy. L'ex-chargé de mission a beaucoup d'amis généreux et attentionnés dans le milieu des affaires. Une autre question fait la une dans cette fin d'année 2018. Avec quel passeport l'ex-chargé de mission se déplace-t-il? Le 27 décembre, Mediapart révèle qu'Alexandre Benalla voyage toujours avec un passeport diplomatique. Le 28, le Quai d'Orsay saisit la justice. Le 30, Benalla réagit via un entretien au journal du dimanche et il promet de rendre les passeports et il explique qu'un membre de la présidence les lui avait restitués avec d'autres effets personnels.
La séance est ouverte.
Mes chers collègues,
le 21 janvier 2019, Benalla est de nouveau entendu par les sénateurs. Cette fois, l'homme apparaît moins cordial. Accompagné désormais d'un avocat, il refuse de répondre à cause de sa mise en examen et de l'information judiciaire en cours. Sur un point néanmoins, il accepte de livrer sa vérité. Le contrat russe. En effet, le 17 décembre 2018, Mediapart révèle que le gendarme Vincent Kras, l'ami de Benalla, a reçu un paiement de près de 300 000 euros d'un oligarque russe dont les magistrats suspectent des liens avec la mafia russe. Le paiement date de juin 2018. Le contrat portait sur la protection de proches et de biens. Le sénateur Jean-Pierre Sueur demande alors à Benalla s'il a un lien avec ce contrat. Et sous serment, celui-ci répond non.
Quand vous étiez à l'Élysée, pouvez-vous confirmer véritablement que vous n'avez été en lien avec aucune société privée liée à des activités de sécurité, de défense ou d'autres domaines pendant que vous exerciez vos fonctions à l'Élysée ?
Monsieur Benalla, pour être très clair, tout le monde sait ici que je suis issu du milieu de la sécurité, de la protection des personnes, que j'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises auparavant, et donc que je me suis créé des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes, dans divers domaines d'ailleurs, et pas seulement la sécurité et la protection physique des personnes, et que je continue encore aujourd'hui, parce que les vrais amis restent, malgré ce déchaînement, à entretenir des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes. Mais je répète devant vous, je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Élysée.
10 jours plus tard, Mediapart publie un enregistrement datant du 26 juillet 2018 entre Alexandre Benalla et Vincent Kras. En plus de prouver une violation des contrôles judiciaires, ces enregistrements mettent également en avant un lien entre le contrat russe et Alexandre Benalla. Le 11 février, le journal Mediapart révèle, preuve à l'appui, qu'Alexandre Benalla serait bien l'architecte d'un contrat sécuritaire pour l'oligarque russe, contrat signé alors qu'il était toujours chargé de mission. Alors, qui est vraiment Alexandre Benalla ? Est-il un ancien chargé de mission reconverti dans le monde trouble des intermédiaires de la diplomatie privée ou parallèle, comme vous préférez ? Ou l'était-il avant d'être obligé de quitter l'Élysée ? Désormais, de la manifestation du 1er mai, on ne parle presque plus. Semaine après semaine, ce que le pouvoir présentait comme une tempête dans un verre d'eau en juillet est devenu une affaire dont les retombées sont, disons, imprévisibles.
Down.
Vous écoutez Affaires Sensibles, consacré aujourd'hui à l'affaire Benalla, dont nous allons parler avec notre invité Samuel Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Le Monde et vous avez suivi l'affaire Benalla et le procès à Paris. Commençons justement par la fin de cette affaire qui n'est pas tout à fait la fin puisqu'on attend le jugement. Ce sera le 5 novembre. Mais le ministère public a requis 18 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende à l'encontre d'Alexandre Benalla, notamment pour les violences commises lors de la manif du 1er mai 2018 qui est à l'origine de l'affaire. D'aucuns auront considéré que ces réquisitions sont pas très méchantes, finalement. Et vous, vous écrivez dans un de vos articles, Alexandre Benalla est à l'origine du premier séisme qui a ébranlé la Macronie. Êtes-vous certain que ce soit un séisme?
C'est quand même une affaire dont on a beaucoup parlé, dont on continue à parler deux ans après. C'est vrai qu'elle a captivé aussi le public. C'est un peu quand même la première affaire de l'administration Macron, la première grosse affaire qui leur tombe dessus. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce procès, c'est ce qu'avait dit aussi Alexandre Benalla au début de l'audience. Il avait dit finalement, j'ai plus sa citation exacte, mais c'était quelque chose comme finalement, c'est aussi, si on n'avait pas, c'est la tentative de dissimuler qui donne lieu à l'affaire. Et c'est assez vrai. C'est-à-dire que si Alexandre Benalla avait été licencié après le 1er mai, si on avait dit un collaborateur de l'Élysée s'est mal comporté pendant la manifestation, il n'y aurait pas eu d'affaire. C'est finalement aussi la protection d'Alexandre Benalla par tous les moyens possibles qui a déclenché pas mal de suspicions et qui nous fait aboutir à ce procès et à ce jugement.
Et la clémence, on n'est pas encore au jugement. Mais la clémence apparente, relative, je sais pas comment dire, du ministère public, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement de cette affaire? Que c'était pas si grave que ça?
Elle est un peu étonnante, cette clémence, parce que, alors après, il faut aussi voir ce qui était jugé. C'est-à-dire que la totalité de l'affaire Benalla, en fait, c'est les affaires Benalla, il y a beaucoup de choses. Il y a des volets, notamment, qui touchent aux histoires d'intermédiaires russes et de sociétés de sécurité de Vincent Crase, qui sont pas encore jugés, où l'enquête est toujours en cours. Là, ce qui était jugé, c'était d'une part les violences, sur lesquelles, en fait, il n'y a pas de constat d'ITT, d'interruption temporaire de travail, qui est un peu le barème qu'utilise la justice pour définir des dommages et définir des peines. C'est vrai que les manifestants molestés par Alexandre Benalla ont eu un peu du mal à prouver qu'ils avaient été effectivement molestés. Il y a aussi le volet donc port d'armes non autorisé pour Vincent Crase, où là aussi on a été assez gentil, mais considérant qu'il s'est pas servi de son arme, même s'il s'est baladé tout le 1er mai avec un pistolet dans un holster à sa ceinture. Donc ça pose aussi... On part d'un paquet de choses de cette affaire Benalla, on en fait quelque chose d'énorme. C'est vrai que là, ce qui était jugé, c'était une partie seulement de l'affaire. Parce qu'il ne préjuge pas des autres, voilà.
Bien sûr, et qu'il y a les passeports diplomatiques,
alors les passeports étaient jugés pour le coup, mais c'est vrai que les passeports, on juge le fait qu'il ait fait un faux en écriture pour obtenir des passeports diplomatiques, pas forcément le fait qu'il ait ensuite accompagné un intermédiaire un peu bizarre, Philippe Aboubou Salomon, dans des voyages au Tchad et dans différents pays d'Afrique, dont on ne sait pas trop pourquoi il y allait en fait.
Alors sur quel volet la justice ne s'est-elle pas penchée?
Alors il reste donc l'enquête préliminaire sur du parquet national financier pour corruption contre la société Mars, qui est la société de Vincent Crase, qui a touché 300 000 euros environ d'un intermédiaire russe un peu sulfureux.
Et Crase, co-prévenu.
Crase qui est co-prévenu, qui est donc ce gendarme de réserviste qui a mis de Benalla, qui à l'époque était chargé de la sécurité à LREM et qui l'a accompagné le 1er mai, d'accord, qui fait aussi partie des gens qu'on voit sur les vidéos. Et il reste aussi la fameuse affaire du coffre-fort, vous savez, d'Alexandre Benalla, qui a disparu en fait avant que la police puisse perquisitionner chez lui, et qui nourrit beaucoup de fantasmes parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans ce coffre-fort, qu'il a jamais voulu le dire, et que ça reste voilà un objet de fantasme sur notamment est-ce qu'il y avait des documents sur Emmanuel Macron, etc. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien.
Comment était Benalla pendant le procès? Quelle impression il vous a faite, vous?
Il était assez dual, c'est-à-dire qu'à la fois il était il possédait très bien son dossier, il connaissait très bien l'affaire, il savait exactement quoi répondre, que dire. Et puis à la fois, dès qu'on le mettait, donc il était assez serein, il répondait de manière assez posée, mais dès qu'on le mettait un peu en défaut, le ton montait assez vite et il pouvait s'énerver assez vite. Ce dont il s'est excusé d'ailleurs au dernier jour d'audience. Mais c'est vrai que je pense que ça représentait assez bien la dualité peut-être du personnage, c'est-à-dire cette espèce de mélange de compétences et de fougue, on va dire, pour être gentil, ou d'impulsion, d'impulsivité. Voilà, c'est un peu les deux visages d'Alexandre Benalla qui sont apparus.
Comment a-t-il réagi au réquisitoire?
Il n'a pas tellement réagi aux réquisitions. Alors, au dernier jour du procès, quand il a pu prendre la parole, l'accusé peut toujours, ou le prévenu peut toujours prendre la parole en dernier dans un procès. Il a fait ses excuses sur pas mal de points, notamment sur son comportement à l'audience où il a pu des fois répliquer un peu vertement au juge assesseur ou à des avocats qui l'interrogeaient. Mais il l'a accueilli en s'excusant du dommage qu'il avait pu causer aussi à l'Élysée et à Emmanuel Macron. Où là, on avait l'impression qu'il était assez sincère. Il y avait presque des sanglots dans sa voix, ou en tout cas une émotion qui était assez marquée, ce qui a interrogé pas mal les journalistes présents. On s'est un peu tous demandé si c'était sincère. Moi, j'ai tendance à penser que ça l'était.
Le procès était de bonne tenue, il n'a pas été entaché.
Non, alors ce qui était assez amusant, c'est, enfin, entre guillemets, c'est Le procès, il avait été prévu sur 3 semaines, ce qui était presque trop finalement pour les faits qui étaient jugés, parce que oui. Si on les ramène au chef de prévention, c'est des violences sans ITT, un port d'armes, c'est pas non plus une affaire énorme. Et il y avait 3 semaines, et puis la justice avait prévu une salle secondaire pour que des journalistes puissent venir regarder le procès en vidéo, qui a quasiment pas été utilisée, parce qu'en fait, on est 2 ans après l'affaire, 3 ans après l'éclatement de l'affaire, et finalement, ça passionne peut-être moins que ce que ça avait pu être à l'époque. Donc il y avait un peu ce paradoxe. Après, le procès était très bien mené. Là, la juge, c'était donc Isabelle Prévost-Després, qui est bien connue, qui est une magistrate très compétente et qui connaissait son dossier également sur le bout des doigts. Mais à la fois, on était dans un procès où les prévenus maîtrisaient très bien leur stratégie de défense, où ils ont peu souvent été mis en défaut, et où finalement la partition se déroulait de manière assez, assez écrite fluide. À l'avance, quoi, fluide.
Et fluide. Vous avez bien écouté, et maintenant on va bien regarder, puisque c'est Barbagallo qui nous invite à regarder. On se retrouve dans 3 minutes.
Certains. Certains y ont vu un refus. On jurait que j'attrapais le ciel à main nue, que j'en faisais des barricades dans la rue. Et te voilà à l'orée de l'inconnu. Je te regarde. Qui me regarde, qui te regarde pour la première fois.
Sensible, Fabrice Drouel.
Samuel Laurent, on va continuer donc de parler de cette affaire Benalla. Et dans l'affaire Benalla, il y a Benalla. Et on va parler essentiellement de Benalla. Qui est-il d'abord? Comment, à 26 ans, a-t-il pu devenir l'un des 2 adjoints du chef de cabinet de la présidence? C'est quoi son CV avant son intégration au sein de l'équipe du candidat? Qu'a-t-il fait pour arriver là, quoi?
Alors, Alexandre Benalla, c'est un personnage assez, quelque part, exemplaire d'une certaine forme d'intégration à la française. Donc, il est né dans un quartier populaire de Dreux. Son prénom de naissance, c'était Marouane, que sa maman a francisé en Alexandre parce que, notamment, il y avait des tentatives d'enlèvement de son père, qui voulait le ramener au Maroc. Et Alexandre Benalla, ensuite, il était passionné de sécurité, il voulait devenir commissaire de police, donc il a fait des études là-dedans, de droit de la sécurité, tout en étant assez athlétique, hein. C'est un personnage assez imposant, Alexandre Benalla, même s'il a pris quelques kilos depuis 3 ans, mais en tout cas, il est très vite devenu aussi agent de sécurité, assez jeune, et agent de sécurité, notamment sur des meetings socialistes. Il a accompagné par exemple Martine Aubry, et il avait été repéré par le chef de la sécurité du Parti Socialiste, Éric Le Serre, qui l'a à un moment donné embauché pour travailler sur différents meetings. Après ça, il a travaillé dans différents postes, et en fait, il a toujours été à la frontière. Comment dire, c'est un un garde du corps qui a un peu monté en compétences parce qu'il arrivait à afficher aussi d'autres compétences, à faire d'autres choses. Il a donc accompagné Emmanuel Macron, il a géré la sécurité de la campagne. Et puis, alors, est-ce que c'est une récompense, l'histoire ne le dit pas, ou est-ce que c'est dû à sa compétence, qui est reconnue par ailleurs par ses supérieurs? Il s'est retrouvé donc chargé de mission, adjoint au chef de cabinet du président de la République, en charge donc de gérer une partie des déplacements d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est beaucoup de logistique, d'organisation. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, à ce que l'image en a retenu, c'était plus un garde du corps à ce moment-là. Il n'était pas censé protéger le président. Il était censé gérer, organiser ses déplacements, notamment en France.
Au moment des faits.
Au moment des faits, oui.
En 2018. Mais lors de l'audience, le procureur a dit le 1er mai 2018, et c'était comme la chronique d'un dérapage annoncé. Et alors, il a souligné que les deux hommes, Benalla et Kras, avaient agi avec des policiers comme des policiers, et parfois à la place de la police, alors qu'ils n'étaient qu'observateurs. Que veut dire un dérapage annoncé? C'est parce que la technostructure avait mis en place un système qui ne pouvait que déraper, c'est ça?
Non, je dirais que c'est plus compliqué que ça. Ce qui se passe, c'est qu'Alexandre Benalla était un peu électron libre, c'est-à-dire qu'il faisait un peu comme il voulait. Son supérieur qui est venu témoigner au procès, son supérieur de l'époque, donc le chef de cabinet François-Xavier Lauche, qu'il porte pas dans son cœur, hein, ça s'est très très bien vu à l'audience où les deux hommes étaient très très virulents l'un envers l'autre, a dit plusieurs fois ça, qu'il avait beaucoup de mal à encadrer Alexandre Benalla parce qu'il passait par-dessus sa tête pour aller directement parler aux autres, avec un peu le côté de dire « moi je suis un ancien, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron, toi tu arrives là, donc moi je suis plus ancien, donc t'es peut-être mon supérieur, mais en fait, j'ai d'autres accès. Alexandre Benalla, c'est vraiment ce personnage-là aussi qui avait une espèce d'obsession du réseau, c'est-à-dire qu'il avait cultivé des contacts, notamment avec les policiers avec qui il a organisé cette journée d'observation du maintien de l'ordre. Et ce qui est intéressant, donc notamment Laurent Simonin, qui était le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police, qui était aussi un des prévenus du procès. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il en a parlé à une partie de ses supérieurs, mais par exemple, François-Xavier Lauche n'était pas au courant de cette fameuse mission d'observation de ce jour-là. Après, le dérapage, est-ce qu'il était si annoncé que ça? Pas forcément, parce qu'en fait, Alexandre Benalla, rien ne l'obligeait à aller arrêter des manifestants. En fait, personne ne lui a demandé de le faire. C'est vraiment quelque chose qu'il a fait d'initiative, pour lequel aucun policier lui a dit aide-nous, s'il te plaît, Alexandre, arrêtez. C'est ce qui a été tout l'enjeu du procès, ce qui a été assez bien démontré. Il n'y avait pas besoin de lui ni de Vincent Kras. Il y avait largement assez de policiers pour faire leur travail.
Quand vous dites que son supérieur a témoigné en disant voilà, je pouvais rien lui dire, il faisait ce qu'il voulait, genre moi je suis de la maison, toi t'es arrivé après. Quand vous dites également qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut sentir dans cette façon d'être proche du pouvoir jusqu'à aller presque jusqu'au principe de Peter, dépasser son seuil de compétence? C'est une volonté de reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce
ressort-là? Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de l'ambition. Il y a un côté balsacien chez Benalla, ouais, évident, hein, d'être arrivé là. Je pense qu'il y a aussi la fascination qui est assez classique pour les ordres de la République. Vous imaginez, à 26 ans, vous retrouvez à l'Élysée avec un beau bureau, avec des dorures, des huissiers, et puis une certaine latitude d'action. Ce qu'on voyait déjà avant, hein, un des faits annexes n'était pas jugé au procès, mais c'est assez amusant dans les fameux Macron Leaks, qui étaient donc cette fuite de données. On a tout le parcours d'Alexandre Benalla et Vincent Kras qui veulent absolument avoir des revolvers, enfin des pistolets automatiques Glock pendant la campagne, donc avant l'élection, et on voit qu'ils font des pieds et des mains pour obtenir ces pistolets, et finalement on se demande un peu pourquoi, à quoi ça peut leur servir, d'ailleurs ils s'en sont jamais servis. Il y avait aussi ce côté un peu, je pense, à l'américaine, de vouloir peut-être avoir un flingue sur soi, un peu un espèce de mythe du bodyguard ou du secret service à l'américaine, un peu nourri de séries comme ça, côté un peu Jack Bauer.
Pour ce qui concerne Vincent Kras, après tout, ancien policier, ça se peut se comprendre, mais effectivement, Benalla, il y a quelque chose de décalé. Voilà.
Vincent Kras, en fait, il était là aussi. Ouais. On a beaucoup dit ancien policier. En fait, il est gendarme réserviste, qui est aussi Alexandre Benalla.
Ouais.
Il a été plein de choses, Vincent Kras. En fait, il était notamment détective privé. Mais gendarme réserviste, en fait, la réserve, c'est du volontariat. C'est-à-dire que vous venez bénévolement aider la gendarmerie. Donc, en fait, Vincent Kras, il n'est pas... Et Benalla, il fait aussi partie de la réserve de la gendarmerie. Ils ont ni l'un ni l'autre une vraie formation de policier, contrairement à ce qu'ils pourraient prétendre. Et c'était un des aspects du procès, d'ailleurs, de la contre-escarpe. C'est qu'en fait, Alexandre Benalla n'arrête pas d'expliquer qu'il a tenté des gestes techniques, entre guillemets, pour arrêter les manifestants, mais qu'il les a ratés.
Ah oui.
Voilà, donc bon, c'est notamment essayer de faire tomber Chloé P, qui était une des prévenues. On voit sur une des vidéos, il essaye de lui faire une espèce de prise de judo qui ne fonctionne effectivement pas, jusqu'à ce qu'un autre policier lui demande de s'asseoir et qu'elle s'assoie d'elle-même. Il y avait pareil, une espèce d'excès de zèle assez mal placé, mais voilà, de gens qui ont voulu peut-être jouer un peu aux policiers sans en être.
Alors, dans le même temps, mais ça n'a pas été abordé pendant le procès, parce que le procès, c'était la contre-escarpe, c'était les violences contre-escarpe. Mais donc, Alexandre Benalla a voyagé beaucoup depuis son départ de l'Elysée, grâce à ses passeports diplomatiques. Parmi eux, les destinations, le Tchad, pays où Emmanuel Macron était en voyage officiel en décembre 2018. Quels étaient les objets de ces voyages d'affaires?
Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Officiellement, Alexandre Benalla, ce qu'il a expliqué, c'est qu'après son départ de l'Elysée, il cherchait du travail, il avait du mal à en trouver puisqu'il était d'un coup sans ressources et poursuivi par la presse, donc il a cherché un peu à l'étranger et il est tombé sur ce personnage un peu sulfureux qui s'appelle Philippe Aboubou Salomon, qui est spécialiste de ce qu'on appelle la diplomatie privée, qui est un truc qui veut pas dire grand-chose, qui est quelque part entre les affaires, la diplomatie, l'État,
mais qui existe,
partout, on connaît d'autres intermédiaires, ça existe partout. Et lui-même bien a dit sûr. J'ai fait ça quelques mois, je regrette, je me suis brouillé avec cette personne, j'aurais pas dû m'engager là-dedans. Mais de fait, on c'est pas vraiment pourquoi Salomon a embauché Benalla, parce que quelles compétences il pouvait lui apporter. Et je crois qu'il a témoigné dans une émission à Envoyé spécial, je crois que c'était essentiellement pour le côté réseau élyséen. Or, Benalla, à l'époque, était plus censé avoir de réseau élyséen. Donc, il reste cette ambiguïté qui n'a pas été tranchée à ce procès. Il y a encore une partie d'enquête en cours qui permettra peut-être de lever un peu le voile sur ça. Mais effectivement, qu'allait faire Alexandre Benalla en Afrique? Le mystère reste assez entier. Et il a assez peu répondu sur cette question lors de son procès.
Il serait... François de Grossouvre, pas pour la fin, parce que il s'est suicidé, Grossouvre. Mais une sorte de Grossouvre de Mitterrand, il aurait aimé ça.
Ce qui paraît.
Vous voyez, un rôle officieux, officiel, les deux, évidemment, ça donne de la force auprès d'un président.
Oui, alors sans doute qu'il y avait peut-être, en tout cas, de sa part, un fantasme de ça. Mmh. Après, ce qu'il en avait, les compétences, la qualité, le réseau, c'est quand même quelqu'un qui avait, encore une fois, 26 ans au moment des faits, qui n'a pas vraiment un réseau diplomatique. Les réseaux Benalla ne sont pas hyper connus ni hyper actifs. Donc là aussi, quelle part de récit il se raconte à lui-même. Mais il continue à faire des choses assez étonnantes. Donc là, il travaille notamment.
Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Il travaille notamment, qu'il a monté une société de consulting en sécurité, notamment sécurité informatique. Ça aussi, c'est assez étonnant parce qu'à ma connaissance, il n'est pas spécialement compétent là-dedans. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Et il travaille aussi pour une ONG suisse assez étrange qui fait de la résilience.
Donc
ça aussi, ça mériterait d'être creusé. C'était assez étonnant. Voilà, qui a été fondé par un ancien policier, je crois. Mais j'ai pas trop bien compris, pour un salaire assez confortable de l'ordre de 5000 francs suisses par mois, ce qui est pas négligeable. Donc voilà, il grenouille un peu dans ces choses-là, sans qu'on comprenne trop qu'est-ce qu'il y fait, qu'est-ce qu'il apporte. Puisque sa compétence, s'il en a une, c'est la logistique, finalement. Ce qu'il faisait à l'Elysée, c'était ça. C'était juste la logistique de déplacement d'une personne.
Merci, Samuel Laurent.
Merci.
Je ne vous laisserai pas partir sans rappeler le titre du livre que vous avez publié aux éditions Les Arènes en février dernier, qui s'appelle « J'ai vu naître le monstre ». Qui est le monstre ?
Le monstre, c'est Twitter et c'est plus largement les réseaux sociaux et leur poids dans la vie collective aujourd'hui.
Aucun lien avec Benalla ?
Un petit peu, si. Ah, il parle notamment du fameux faux compte utilisé par LREM pour couvrir l'affaire Benalla.
Très bien, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Benalla, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, sur franceinter.fr. Merci à Tristan Gratalon et Guillaume Roux qui étaient à la technique aujourd'hui.